Ce message vous est proposé gratuitement.
Gratuitement.
Et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
Le déséquilibre dans lequel nous sommes. Seigneur, nous sommes heureux d'être ici pour oublier un instant, Seigneur, et de toucher ta gloire, de toucher ta présence, de toucher ta personne. Père Céleste, si nous n'avions pas le secours du Dieu vivant, nous serions désespérés, tristes et abattus, sans espoir aucun. Seigneur Jésus, ce qui nous maintient encore et ce qui nous fait chanter, c'est parce que nous avons un espoir dans nos cœurs. C'est parce que nous savons que quelque chose de bien meilleur se prépare. Et que bientôt, Seigneur, nous serons part entière de ce quelque chose. Ce quelque chose dont tu nous parles dans ta parole, Seigneur, ton retour, la gloire à venir, la vie éternelle, la réalité de ce que nous croyons, nous prêchons, nous parlons, nous témoignons depuis tant d'années déjà, Seigneur. Nous luttons pour l'obtenir sans le voir avec les yeux de la chair. Mais Seigneur, nous l'avons expérimenté dans notre âme et dans notre esprit. Et l'expérience que nous avons faite au fond de nous-mêmes, cette expérience avec toi, Seigneur, cette expérience merveilleuse du salut, du pardon, de la vie que tu nous donnes gratuitement, de cette joie, de cette paix intérieure, c'est quelque chose, Seigneur, qui nous donne déjà une dimension, une petite dimension de ce qui nous attend. Aide-nous à persévérer, Seigneur. Aide-nous, s'il te plaît. Tant de fois, nous sommes assaillis et nous sommes comme dans un désarroi au milieu de ce monde plein de désordre. Mais Seigneur, tu as dit, lorsque vous verrez ces choses, levez vos têtes, car votre délivrance approche. Oui, nous voulons regarder en haut, Seigneur. Et quand nous regardons en haut, nous voyons celui qui a vaincu pour nous. Et c'est toi que nous sommes venus rencontrer ce matin. Toi, Seigneur, que nous aimons, notre Sauveur. Parle-nous, parle-nous. Nous avons tout le temps besoin, encore besoin d'exhortation, encore besoin d'être mis en face de ta parole, d'être rappelé les vérités de ta parole afin de les mettre en pratique. Seigneur, parle, s'il te plaît. Merci. Dans notre méditation systématique de la parole de Dieu, des commandements du Seigneur, de ces commandements, de ces 10 commandements que nous devrions faire comme base de notre vie, que nous devrions afficher dans tous nos tribunaux, pour rappeler à tous nos magistrats et à tous nos accusés qu'il y a une autorité au-dessus de tout. Ces 10 commandements que nous devons connaître et vivre et qui ne sont pas abrogés. Alors que nous les étudions, nous ne pouvons pas dire qu'ils sont abrogés, c'est pas vrai? Alors que nous les étudions, nous voyons qu'ils s'appliquent à nous jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes arrivés au 9e commandement, où il est dit, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Exode 20, 16. Je crois que lorsque nous aurons terminé, vous saurez très bien où se trouvent ces commandements, c'est pas vrai? Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Et un verset parallèle dans Lévitique 19, 11, que nous avons déjà eu l'occasion de voir. Lévitique 19, 11. Vous ne commettrez pas de vol, et vous n'userez pas de tromperie, ni de fausseté, chacun envers son compatriote, ou envers son prochain. Il est dit donc, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Autrement dit, tu ne mentiras pas contre ton prochain. Un faux témoignage, c'est un mensonge. C'est quelque chose qu'on prononce avec sa bouche, qu'on témoigne et qui est faux. Quand on ment, c'est toujours au préjudice de quelqu'un. On ne peut pas mentir sans que ce mensonge ne porte préjudice à quelqu'un. Il n'y a pas de mensonge sans conséquences négatives, à court terme ou à long terme. Chaque mensonge a une conséquence. Peut-être on a un bénéfice immédiat à cause du mensonge, mais ce bénéfice sera une perte au double ou au triple. Mentir ne paye pas, si je puis dire ainsi. Il n'y a pas de mensonge sans conséquences négatives. Le mensonge est toujours contre quelqu'un. Par le mensonge, on se détruit soi-même. Le menteur doit être aussi un dissimulateur. Vous voyez, chaque péché engendre un autre péché. Le péché est très prolifique. Pour couvrir un péché, il faut un autre péché. Pour justifier, entre guillemets, un péché, il faut faire un autre péché, une autre violation. Chaque personne qui s'engage sur la route du mensonge s'engage sur une voie dangereuse, une voie qui le mènera de plus en plus à la dégradation. À la dégradation de toute moralité, de toute éthique, de toute vérité. Autrement dit, par le mensonge, on se détruit soi-même. Voilà une vérité qu'il faut bien se dire et se répéter. Nous nous faisons du mal à nous-mêmes, non seulement aux autres, à ceux auxquels nous mentons, mais nous faisons du mal à nous-mêmes. Le menteur est un dissimulateur, un homme qui doit faire preuve d'une grande mémoire. D'une grande mémoire. Celui qui dit la vérité, il n'a pas besoin de se faire de soucis. En tout cas, ce qu'il a dit, c'est la vérité. Même si cette vérité lui coûte quelque chose dans un premier temps, il n'a pas besoin d'écrire sur un calepin ce qu'il a dit. Pourquoi? Parce que cette vérité, elle est vraie, elle fait partie de lui-même. Donc, à n'importe quel moment, il peut la répéter. Mais le dissimulateur, il doit avoir une mémoire d'éléphant. À plus forte raison si c'est son habitude de mentir. Car il doit pouvoir répéter chaque fois le même mensonge, afin d'être cru. Mais le menteur a une mémoire limitée, croyez-moi. Il va essayer de vous prouver que c'est la vérité. Mais comment cette vérité peut-elle changer? La dernière fois, tu as dit ceci et maintenant tu dis cela. Ah oui, mais il y avait des circonstances. Bon, ces circonstances, pourquoi tu ne me les as pas dites? Oui, mais n'est-ce pas, il faut comprendre quand même, etc. Et que sais-je encore? Et il s'embourbe, et il s'embourbe, et il s'embourbe encore. Il faut qu'il soit un homme d'une grande mémoire. Il est traqué par ses propres mensonges. Le menteur est un homme traqué. Il n'est pas en paix. Le mensonge ôte la paix. Le menteur a toujours... sera toujours découvert. Et il viendra un moment quand il dira la vérité, personne ne le croira. C'est pas vrai? C'est un menteur, pourquoi vais-je le croire? Il m'a trompé déjà combien de fois? Combien de fois ne m'a-t-il pas raconté une histoire? Je n'ai donc pas confiance dans ce qu'il me dit maintenant. Alors que ce qu'il dit est vrai, mais maintenant, il paye pour son mensonge. Il va payer non pas seulement une fois, mais il va payer 20 fois peut-être. Il s'est creusé un trou dans lequel il est tombé. Chaque mensonge détruit et fait du mal à son prochain. Et il détruit l'homme qui le prononce. et des conséquences négatives. Les conséquences négatives sont la mort. La mort spirituelle et la mort physique. Le mensonge, c'est la mort. Le bon mensonge n'existe pas. Pas plus que le vrai mensonge. Le mensonge vrai, je devrais dire. Il n'y a pas de bon mensonge et il n'y a pas de mensonge vrai. Le mensonge est toujours menteur. Peut-être ça fait sourire ces déclarations et pourtant elles ont leur sens. Le mensonge est toujours menteur, il est péché. C'est quelque chose qui ne se trouvera jamais en Dieu. Jamais. Et il ne s'est jamais trouvé de mensonge en lui. Par contre, c'est la spécialité du diable que le mensonge. Le père du mensonge, comme disait Jésus. Le mensonge envenime les relations. Lorsqu'il y a le mensonge entre le mari et la femme et le mari, il n'y a plus confiance, il y a les relations qui s'enveniment. Combien de maris ne bourrent pas leurs femmes et leurs épouses de mensonges? Au départ, elles croient. Oh, tu sais, je dois rentrer à telle heure ce soir à cause de travail supplémentaire que j'ai au bureau. Oh, d'accord, je regrette. Ça fait rien, je t'attendrai. Mais voilà que cette histoire se prolonge. Non pas seulement une fois, mais deux fois, mais trois fois, mais quatre fois. Et pour finir, il y a un doute qui s'installe. Pourquoi? Eh bien, quand mon mari rentre, il a un autre parfum sur lui. Oh, les femmes sont subtiles, vous savez. Ah, mais comment ça se fait? Tu as un autre parfum sur toi. Ah, mais qu'est-ce que tu veux? Je suis allé m'arranger un peu les cheveux chez le coiffeur, il m'a mis un parfum. Autre mensonge. Un mensonge amène toujours un autre. Mais comment ça se fait? Je passais dans la rue, je t'ai vu passer avec la voiture, il y avait quelqu'un, une femme à côté de toi. Ah oui, mais ça c'est la secrétaire. J'ai dû la ramener chez elle, tu sais, il y a des difficultés de transport et que sais-je. Et on s'embourbe, et on s'embourbe, et on s'embourbe. Là, je parle d'une relation familiale, mais il n'y a pas que ça. Jusqu'au moment où l'homme ne peut plus être cru. Jusqu'au moment où la femme ne peut plus être crue. Parce qu'il y a des femmes qui savent très bien mentir. Les mensonges enveniment les relations. Sois franche avec ton mari, sois franc avec ta femme. Dis exactement ce qui se passe. Prouve-lui par la vérité. Et si tu sais gagner sa confiance, tu n'auras rien à craindre. Le mariage est basé sur la confiance. Le mariage n'est pas basé sur le mensonge. Et dès l'instant où le mensonge rentre dans les relations d'un mari et d'une femme, c'est le commencement de la ruine du mariage. Là, nous parlons de la famille, mais sachez que tout progrès dans la société commence au niveau de la famille. Toute véritable civilisation commence au niveau de la famille. Toute véritable vie chrétienne commence au niveau de la famille. Si la famille est disloquée, la nation sera disloquée. Si la famille n'a pas appris la vérité et la crédibilité et tous les principes moraux de base de toute société, la société sera en déséquilibre. Et c'est la chose qui nous frappe aujourd'hui dans notre pays et dans le monde, dans bien des pays aujourd'hui. Non, mes amis, ne pensez pas que l'école va donner une éducation à vos enfants que vous n'avez pas donnée. Il y a des gens, je l'ai vu même en Europe ou en Amérique, qui s'imaginent qu'en envoyant leurs enfants dans une école chrétienne, là, l'école va faire le travail qu'ils n'ont pas fait. Eh bien, c'est de la blague. Ces enfants seront très ennuyeux à l'école. Et c'est eux qui vont entraîner leurs camarades dans des choses néfastes. La véritable éducation commence au foyer. D'abord par l'exemple de papa et de maman, dans la vérité, dans la crédibilité et dans la discipline. Jamais, jamais, aucun parti politique, quel qu'il soit, n'a redressé le moral, la moralité d'une société. La moralité d'une société. D'une société qui n'a plus de morale. Elle se refait où? Au pied de la croix de Jésus-Christ. Et cela, le grand travail de l'Église de Jésus-Christ. Et si une Église n'enseigne pas ces choses, basées sur la parole de Dieu, ce n'est pas une Église. Frères et sœurs, nous devons revenir à ces bases morales, à ces bases spirituelles, si nous voulons faire quelque chose et changer quelque chose. Il ne suffit pas d'avoir une grande foule qui se rassemble pour écouter un prédicateur pour que ce soit forcément ce qui convient si la parole de Dieu n'est pas prêchée et si l'exemple n'est pas démontré par des vies transformées. Tout cela n'est que poussière. L'homme intérieur doit changer. Je sais que toute société, aussi déséquilibrée qu'elle soit et qu'elle puisse être à cause du péché, que toute famille, aussi déséquilibrée et divisée qu'elle soit, peut être restaurée à travers Jésus-Christ et Jésus seul. S'il n'y avait pas possibilité de restauration, alors ça servirait à rien qu'on se réunisse ici. Est-ce qu'on se réunit simplement pour chanter des temps cantiques, taper des mains, écouter la bonne musique? Non, nous nous réunissons ici pour changer, pour devenir meilleurs, pour faire une nation meilleure. Le changement de la nation commence par l'Église de Jésus-Christ. Faites une différence, je vous en supplie, entre Église et Église, car toute Église n'est pas Église. Si Dieu nous a donné une intelligence, si Dieu nous a donné une compréhension, eh bien c'est pour que nous sachions choisir. Il a donné sa parole. Frères et sœurs, ne méprisons pas la parole de Dieu. Lisons-la et lisons-la encore. Continuons à la méditer. Ce n'est pas la parole de l'homme que nous voulons prêcher, mais nous voulons annoncer la parole de Dieu, la parole qui change les vies, la parole qui donne espoir. Et qui change cet homme intérieur, ce menteur de naissance. Le mensonge envenime les relations. Le mensonge apporte la méfiance et le déséquilibre. Il ne peut y avoir bonheur dans une famille quand il y a méfiance entre le mari et son épouse. Qui se rejette sur les enfants. Il ne peut y avoir le mensonge dans un foyer. Et si vous êtes dans votre foyer et que vous vivez dans le mensonge, changez, repentez-vous, confessez, ayez une bonne conversation avec votre femme et avec votre mari. Il y a des femmes qui dissimulent à leur mari une quantité de choses. Ils le sentent. Alors eux-mêmes, ils commencent à être dans la suspicion. Ils épient leurs femmes. Elles font toutes sortes de petites tractations, de petits commerces à côté. Il ne faut surtout pas que le mari sache. À cause des coutumes qu'ils sont dans lesquelles ils sont liés, elles se débrouillent pour acheter une parcelle, elles la mettent de côté. Là-bas, le mari ne sait rien. Mais quand on vit de cette façon-là et qu'on est des chrétiens, frères et sœurs, et qu'il n'y a pas de transparence entre les uns et les autres, il n'y a pas de paix, il n'y a pas de bonheur. Le mari doit défendre les droits de sa femme. Et c'est la raison pour laquelle j'ai dit que chaque foyer devrait faire un testament. Voilà. Cette parcelle revient à ma femme quand je pars. Cette maison revient à mon enfant quand je pars. Ce n'est pas à mon frère, ce n'est pas à ce parasite qui ne fait rien là-bas. Moi j'ai travaillé, c'est pour ma famille. Nous sommes dans une nouvelle société. Nous sommes dans la société des enfants de Dieu. dans la société des enfants de Dieu. Nous ne sommes plus conduits par la coutume. Non, il y a bien des coutumes qui ne sont pas bonnes. J'ai beau être un descendant ou des Gaulois ou des Helvètes, mais qu'est-ce que je peux faire avec leurs coutumes? Ce n'est pas leur coutume qui a fait ce que je suis aujourd'hui, mais c'est la parole de Dieu. C'est le changement de l'être intérieur. Ce n'est pas la coutume occidentale ou orientale ou que sais-je encore. C'est la coutume du royaume des cieux. Frères et sœurs, nous devons apprendre que nous sommes un nouveau peuple. Jusqu'à quand allons-nous nous laisser lier par le mensonge? Le mensonge. Tu dois faire ceci, tu ne dois pas faire cela. Tu ne peux manger telle viande, tu ne peux manger tel poisson. C'est un tabou. Tu ne peux coucher avec ta femme tel jour ou tel autre jour. Ou quand il y a la lune qui est là, tu ne peux coucher avec ta femme. Tu ne peux faire ceci, tu ne peux faire cela. Laissez briser ces liens au nom de Jésus. Amen. Dieu nous appelle à être des hommes et des femmes libres, à marcher dans la liberté et à ne pas nous laisser asservir par les mensonges de Satan qui nous sont communiqués par les coutumes qui viennent des hommes, qui viennent du diable, qui viennent du puits de l'enfer. Nous, Dieu nous appelle à la liberté. Soyons des hommes libres. Je me souviens quand j'étais un petit garçon, j'ai grandi là-bas au Gabon, il y avait des tabous. Des tabous, par exemple, cette femme, elle ne devait jamais voir l'arc-en-ciel. Si elle voyait l'arc-en-ciel, elle devait mourir. Et un jour, elle était en train de mettre le linge à la ligne, et juste devant elle, un bel arc-en-ciel. Écoutez, frères, sœurs, l'arc-en-ciel, est-ce que c'est un signe de malédiction? Au contraire, c'est l'alliance de Dieu avec les hommes qu'il a marquée depuis le temps de Noé. Cette femme est tombée par terre, elle a commencé à gesticuler, à vraiment, il fallait voir ça, ça j'ai jamais oublié. La mousse qui lui vient dans la bouche et tout ça, une possession diabolique, quoi, c'est tout, rien d'autre. Possédée, liée par la puissance de Satan. Voilà. Il a fallu bagarrer, lutter pour sauver sa vie. Mais Jésus est celui qui libère. Mais combien de tabous, de gens qui sont liés par des tabous ici? Oh, moi, je ne mange pas l'impiatou. Eh bien, moi, mon délai, je mange l'impiatou. Si c'est par goût, c'est une chose. Mais si c'est par tabou, je dis non. On va te préparer un bon plat de piatou. On va prier dessus. Et on va manger ensemble. Brisez les liens. Les liens du mensonge. Du mensonge qui vous tiennent asservis. Qui vous tiennent esclaves. Oh, dans ma tribu, on ne fait jamais cela. Eh bien, maintenant, tu as changé de tribu. Alors, fais-le. Je suis fatigué d'entendre ces arguments qui n'ont pas de valeur. Je sais que maintenant que je l'ai dit publiquement, vous n'allez pas me le dire. Hein? Vous n'allez pas me le dire. Vous n'allez pas me dire, oh, chez moi, on ne fait pas ça. Dans ma tribu, on n'a jamais fait ça. On n'a jamais mangé ceci, on n'a jamais mangé cela. Bon, vous n'allez plus me le dire, ça je sais. Pourtant, je sais que ça existe. Il y en a qui sont ici qui vont dire ça. Soyez libérés de ces jougs tribales, ces jougs familiaux, ces jougs imposés par les coco, je ne sais d'où. Laissez ça de côté, frères et sœurs. Nous ne pouvons accepter d'être liés par les mensonges. Dieu nous appelle à être des hommes libres. Il donne la paix. Le mensonge est impropre, vous m'entendez? Il est impropre aux enfants du royaume des cieux. Voilà. Un enfant du royaume des cieux ne peut pas être mensonge dans le mensonge, ni être lié par le mensonge. Dire la vérité est toujours la dire. Voilà le principe du royaume des cieux. Voilà ce que veut dire ce 9e commandement. Dire la vérité est toujours la dire. L'enfant du royaume des cieux n'a qu'une parole. Il n'a pas une langue fourchue, comme disent les peaux rouges, les Apaches. Elle est Cherokee des États-Unis. La langue fourchue. Oh, il n'y a pas que les visages pâles qui est une langue fourchue. Dire la vérité est toujours la vérité, voilà ce que veut dire ce 9e commandement. L'enfant du royaume des cieux n'a qu'une parole, et cette parole est vraie. Elle est vraie en toutes circonstances. Elle est lumière. Elle est toujours sincère. Elle n'est pas à double sens. Oui, c'est bien ça, mais vous ajoutez le mais, il n'y a plus la vérité. Que votre oui soit oui et votre non soit non. Tout ce que vous ajoutez vient du diable. Autrement dit, nous en avons fini avec les serments. J'ai vu souvent, quand j'étais au Gabon, quand on était dans les villages, les gens parlaient et puis ils disaient, la vérité, la croix. Et ils faisaient une croix par terre, ils faisaient comme ça et ils levaient la main. Eh bien, ça, c'est un blasphème. Vous m'entendez? Que votre oui soit oui et votre non soit non. Tout ce que vous ajoutez vient du diable. L'enfant de Dieu est un homme ou une femme crédible. Quand il dit oui, nous savons que c'est oui. Ça ne sert à rien d'aller plus loin. Quand il dit non, c'est non. C'est fini. L'enfant du royaume des cieux n'a qu'une parole, c'est ta parole, elle est vraie, elle est lumière, elle est toujours sincère, elle n'a pas d'arrière-pensée, elle n'a pas de calculation sordide. Oh, mais il y en a qui vont dire, mais vous êtes naïf. Vous êtes naïf, il faut être diplomate. Eh bien, je ne suis pas diplomate. Mais vous allez trop fort, pasteur, dans ce que vous dites. Vous allez trop fort, du reste, vous choquez les gens. Vous choquez les gens et vous allez directement et vous coupez dedans. Il faut avoir plus de diplomatie. Eh bien, je n'en ai pas à bout pia. Dieu ne nous appelle pas à faire de la diplomatie, à appeler ce qui est noir, gris. Non. Ce qui est mal est mal. Ce qui est bien. Il n'y a pas d'intermédiaire. Et le prédicateur de l'évangile, ce n'est certainement pas un diplomate. C'est un homme qui dit la vérité avec l'amour. Il n'y a pas de plus grande merveille que de pouvoir dire la vérité avec amour. Oh, si je dis la vérité pour porter un jugement et mettre le doigt sur quelqu'un sans avoir de compassion pour lui, alors là je fais mal, parce que là aussi, il faut garder l'équilibre. Il faut dire la vérité, c'est vrai. La vérité, mais il faut savoir la dire. Et il faut savoir laisser la part à l'amour. Parce que toi, prédicateur, qui annonce l'évangile, ton nom peut être Jacques Verneau, ou bien ton nom peut être un autre qui prêche ici au Congo. Tu dois savoir, prédicateur, que toi, tu n'es pas au-dessus de ceux auxquels tu prêches. Toi aussi, tu étais un pécheur. Plus t'as Dieu que ce soit du passé. Si tu es un prédicateur qui vit encore dans le péché, alors là, tu amasses du jugement sur toi-même. Car tu seras jugé d'après les paroles de ta bouche. C'est pour ça, veille sur toi-même, toi, prédicateur. Tu entends, Jacques Verneau? Écoutez, mes frères, qu'est-ce que notre maître va dire si nous avons dit des choses qui sont justes, basées sur la parole de Dieu, et que nous ne faisons pas nous-mêmes? Ou qu'est-ce que le maître va dire si nous prétendons être des messagers de sa grâce et de son esprit et de sa puissance, et que nous ne vivons pas ce que nous disons? Il nous dira, menteur, Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ah, mais Seigneur, j'ai prêché en ton nom. Ah, mais Seigneur, j'ai guéri des malades en ton nom. Ah, mais Seigneur, j'ai prêché à de grandes foules. Ah, mais Seigneur, j'ai prié pour les malades. Il y a eu des guérisons. Retire-toi de moi, je ne te connais pas. Toi qui commets l'iniquité. Ah, donc, toi, prédicateur, souviens-toi de cela. Vois. Il voit mes motivations. Il voit le pourquoi de mon action, de ma prédication. Il voit le comment. Il sonde tout et rien n'est caché devant lui. C'est pour ça, ô homme, qui que tu sois, humilie-toi devant ton Dieu. Car quoi que tu prêches l'évangile, sache que tu es indigne de le faire. Et tu ne peux le faire par toi-même, si ce n'est qu'avec le secours de son esprit. Apprends à t'humilier devant ton Dieu. Apprends jusqu'au dernier jour. Combien je suis navré, certaines fois, d'entendre et de voir des gens qui ont des responsabilités et qui outrepassent ces responsabilités. Moi, combien de fois j'ai soupiré, Seigneur, ce serait bien plus facile de vivre sans une telle charge et une telle responsabilité. Si je prêche l'évangile, c'est parce que la nécessité m'est imposée. Vous m'entendez? Mais ce n'est pas mon choix. Et quand je vous dis ceci, c'est la vérité. Dieu connaît les combats que j'ai eus dans mon cœur. Je n'ai jamais dit « je veux être pasteur ». Je veux proclamer l'évangile sur les ou que ce soit, sur les estrades. Je veux... Non, non, non. J'ai toujours dit, Seigneur, mais pourquoi moi? Seigneur, je ne sais pas parler. Seigneur, je suis incapable. Seigneur, prêcher ta parole, c'est une responsabilité qui me dépasse. Si vous saviez, frères et sœurs, combien de fois j'ai pleuré sur mes genoux. Dieu a dit, va, je t'ai appelé. Une nécessité qui m'a été imposée. Des fois, je m'étonne de voir comme des jeunes gens se lèvent rapidement, en 24 heures, ils se proclament pasteurs. En tout cas, je n'étais pas comme ça, croyez-moi. J'ai peur quand je vois ces jeunes gens qui s'en vont quelque part et qui commencent à ramasser un groupe. Et puis, ils mettent toujours le nom de la borne. Et ça, ça me fait mal au ventre. Sans autorisation quelconque. Ils s'en vont, ils mettent le nom de la borne. Il y en a là-bas à Brazzaville. Sans qu'on le sache. Et ils font n'importe quoi. Eh bien, non, moi, je ne suis pas d'accord. Usurpateur. Commence d'abord par le commencement. Prouve ton appel d'abord. Montre de l'humilité d'abord. Et ne commence pas à tout mélanger comme tu le fais. Cela me fait peur. Et je désapprouve cette façon de faire. Peut-être que tout le monde ne passe pas par le même chemin, mais mon chemin à moi, c'était celui-là. Et si je prêche l'évangile, c'est parce que la nécessité m'était imposée. C'est une imposition qui est venue de la part de Dieu. Voilà ce que je vais dire. Ce n'est pas un choix. Dieu sait combien de fois j'ai voulu prendre une autre route, un autre chemin. Je trouvais ça trop difficile. Après tant d'années encore, je ne trouve pas que c'est plus facile. Et je dis, Seigneur, jusqu'à quand tu vas me maintenir au Congo? Jusqu'à quand tu vas me faire de moi un prédicateur là-bas au Congo? Combien de fois j'ai l'impression de prêcher dans un désert? Oui, le Seigneur m'apprend et il me dit, ce n'est pas à cause de toi si je sauve au Congo, c'est à cause de moi-même. Ce n'est pas à cause de l'excellence de ta prédication que je sauve les âmes, c'est parce que je les aime et c'est tout. Et si je te maintiens là, c'est parce que je te veux là et c'est tout. Ce n'est pas parce que tu es capable, mais moi je suis capable en toi. La vérité, eh bien la voilà, je vous l'ai dit. L'enfant du royaume des cieux n'a qu'une parole. Et cette parole est vraie. Elle est lumière. Elle est sincère. Le mensonge est un faux témoignage. Le mensonge est synonyme de ténèbres. Mais la vérité est synonyme de lumière. On ne peut être enfant du royaume et être ténèbres. Incompatibilité. C'est soit l'un, soit l'autre. Si tu es dans le mensonge, tu es dans les ténèbres. Et tu n'es pas du royaume. Si tu es dans la vérité, tu es dans la lumière. Et tu es du royaume. On ne peut être enfant du royaume et être enfant des ténèbres en même temps. Le royaume de Dieu, il est vérité. Le royaume de Dieu est lumière. Le royaume de Dieu est justice. Justice, c'est-à-dire quand on est dans ce royaume, on fait tout ce qui est juste. Il n'y a pas de magouillage dans le royaume des cieux. Le royaume des cieux est paix. Le royaume des cieux est sainteté. Le royaume des cieux est amour. Si nous n'avons pas ces caractéristiques du royaume en nous, nous ne lui appartenons pas. Simple. Sommes-nous vérité ou sommes-nous menteurs? Celui qui est du royaume a le caractère du royaume. Et l'une des marques de ce caractère est la vérité. Si nous ne sommes pas dans la vérité, nous sommes dans la dissimulation, nous sommes dans le gris, nous refusons la transparence, nous refusons le contrôle, et là ça peut me faire mal, vous m'entendez, ça peut me faire mal, parce qu'on le voit ici, même ici dans l'église, les gens qui détestent le contrôle. Ah, vous n'avez pas confiance en moi. Quoi, c'est pas une question de confiance. C'est jamais été une question de confiance, le contrôle. Toute organisation, tout ensemble de personnes qui font une tâche, il doit y avoir un contrôle mutuel. Et ce n'est pas une question de ne pas confiance ou de ne pas avoir confiance ou d'avoir confiance. C'est une question de discipline et c'est tout. Mais on voit des gens, dès qu'on veut leur parler de contrôle, il y a la tête qui s'allonge, on traîne les pieds, on se plaint à gauche, à droite, par derrière, on n'est pas content, on soupire, et on tâche de bloquer la route. Eh bien, ces gens-là ne cherchent pas la transparence, ils sont dans le gris. Le flou. Ah, peut-être que si on contrôle, il n'y a rien à dire. Simplement des conseils, fait tâche de faire ça comme ça et ça comme ça, mais il n'y a pas de faute capitale. Mais simplement, c'est l'orgueil qui est là. C'est le refus d'une transparence. Eh bien, mon ami, l'homme du royaume des cieux, la femme du royaume des cieux, c'est un homme, c'est une femme transparent. Tout est là. Tout. Il rend compte. Il fait savoir. Il n'a rien à cacher. Frères et sœurs, si nous n'avons pas ces caractéristiques du royaume, nous ne lui appartenons pas. Et le caractère du royaume, c'est la vérité. Et la vérité se manifeste par la transparence. Le royaume de Dieu ne peut être mensonge. Ce royaume, on en parle depuis quelque temps. Où est-il ce royaume? Nous attendons le royaume des cieux qui va venir lorsque Jésus apparaîtra et qui s'établira pour régner à Jérusalem sur ce nouveau monde pendant 1000 ans, sur ce monde tel qu'il est, changé par son gouvernement, et il deviendra l'autorité suprême de toutes les nations et il fera une démonstration pendant 1000 ans. Et après cela, il fera une nouvelle terre, un nouveau ciel, où nous habiterons avec lui pour l'éternité. Mais il veut d'abord faire la démonstration de ce qu'il avait voulu. Il va imposer son règne, oui, imposer. Ça ne sera pas un vote à la majorité. Ça ne sera pas un ballotage de quelques centaines de... Ah, les hommes! Avec Dieu, ce n'est pas la démocratie et ce n'est pas la dictature non plus. Avec Dieu, c'est le royaume. C'est le royaume. Et tous ceux qui seront dans ce royaume, ce sont ceux qui ont déjà choisi maintenant. C'est pour cela que dans ce royaume, il n'y a pas de parti d'opposition. Oh, merci Seigneur. Je sais que j'ai déjà dit ça, mais je le répète. Hein? Pourquoi? Parce que maintenant, ce royaume, comme il est dit dans Luc 17, 21, on ne dira pas, voyez, il est ici ou il est là. Car vous voyez, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Il est déjà au milieu de vous. Il règne dans mon cœur. Je fais partie du royaume. Il règne dans votre cœur. Vous faites partie du royaume. Et automatiquement, vous êtes d'accord avec le royaume. Donc, il n'y a pas de parti d'opposition. C'est maintenant que se fait le tri. L'opposition est là déjà maintenant. Elle est là. Vous la rencontrez toujours autour de vous. Ceux qui veulent la magouille, ceux qui veulent le mensonge, ceux qui veulent l'adultère, ceux qui veulent l'infidélité, ils sont là. Ceux qui veulent jouir du royaume et jouir de Satan, ils sont toujours là. Ils sont opposés à vous, opposés à la vérité. Là, l'opposition, elle est là, c'est vrai. Mais dans le royaume qui vient, pas d'opposition. Car rentreront dans ce royaume ceux dans lesquels ils règnent déjà. Alléluia. Ils règnent déjà. Nous avons lu Luc 17, 21. On ne dira pas, voyez, il est ici, ou il est là. Car voyez, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Ce royaume, avant de se manifester de façon visible, ou de façon, entre guillemets, politique, doit exister dans le cœur des sujets du royaume. Alléluia. J'appartiens au royaume. Es-tu du royaume? Mais la caractéristique du royaume, c'est la vérité. La vérité, ô Seigneur, que ta vérité soit en moi. Rends-moi vérité. Fais de moi une vérité. Que je sois tout, dans toute ma vie, la vérité. Tout royaume a un roi. Pas vrai? Le roi de ce royaume dont nous parlons doit régner en premier dans nos cœurs. Et tous ceux qui le veulent et l'acceptent feront partie de ce royaume. Et ceux-là, ceux qui font partie de ce royaume, ont la caractéristique de ce royaume. Le royaume, il est vérité. Et eux-mêmes sont vérité. Oh, peut-être que c'est un programme dur et difficile que je vous présente ce matin, que je commence à vous présenter, car on ne pourra pas terminer ce sujet ce matin. Frères et sœurs, c'est peut-être quelque chose qui vous semble difficile, parce que le mensonge est dans le monde. Le monde est pétri de mensonges, vous m'entendez? À tous les niveaux. Mensonge! Il y a le mensonge religieux, ça existe, hein? Il y a le mensonge politique, ça existe, hein? Il y a le mensonge social, ça existe. Il y a le mensonge commercial, il y a le mensonge publicitaire, il y a le mensonge tribunal, qu'on appelle droit. C'est pas vrai? Oh là là, difficile de discerner au milieu de ce fouillis. Oh Dieu, aide-nous. Aide-nous. Baissons la tête, s'il vous plaît. Père, nous sommes devant toi. Et à l'ouïe de ces paroles, Seigneur, nous sommes quelque peu ébranlés. Ébranlés au-dedans de nous-mêmes, Seigneur. Car nous nous reconnaissons sous bien des rapports. Nous nous reconnaissons, Seigneur, et dans notre bouche, bien souvent, le mensonge a été trouvé au lieu de la vérité. Tu l'as dit, tu ne diras pas de faux témoignages contre ton prochain. Et cette parole est très profonde. Tu ne t'es pas arrêté à dire, tu ne diras pas de faux témoignages. Mais tu as dit encore contre ton prochain, car le faux témoignage apporte toujours préjudice à quelqu'un, apporte toujours des conséquences négatives sur l'autre ou sur les autres. Certains mensonges ont détruit des nations entières. Certains mensonges sont entrés dans des systèmes qui ont apporté le désespoir à des millions d'hommes, qui ont apporté la destruction de la moralité, certains mensonges prononcés par un homme ou deux ou quelques-uns ont fait que des milliers ont été traînés à la mort. Ils ont cru aux mensonges. Ô Dieu, nous avons besoin de toi. Veuille nous apprendre encore tout à nouveau et nous enseigner et nous conduire dans les chemins de la vérité. Est-ce que la vérité a toujours été en toi qui es ici ce matin et en toi là à la télévision ou à la radio qui écoutait? Faisons l'examen de nos cœurs. Je ne parle pas de cet état dans lequel vous étiez avant d'avoir accepté Jésus-Christ. Mais je parle de cet état dans lequel vous êtes depuis que vous avez accepté Jésus-Christ dans votre vie. Est-ce que le mensonge est encore dans votre bouche? Si le mensonge est encore dans votre bouche, repentez-vous. Alors levez-vous là où vous êtes en signe de repentance, vous, chrétiens. Vous avez fait des tractations mensongères. Vous avez prétendu que, et c'était faux. Et le dimanche, vous chantez des cantiques et vous priez. Vous avez gagné quelque chose sur la base du mensonge. Bien sûr que vous avez gagné plus que ce que vous auriez gagné si vous aviez dit la vérité. Mais le résultat ne justifie pas le moyen. Un enfant de Dieu est un enfant de la lumière et de la vérité. Que le mensonge fuit nos bouches. Depuis que tu as cru, combien de mensonges as-tu prononcé? Ne penses-tu pas que tu devrais demander pardon à Dieu? Tu as exagéré, et l'exagération, c'est du mensonge. Tu as fait l'hypocrite, tu as fait croire quelque chose qui n'était pas. Or, c'est du mensonge. Tu as dans la poche un faux diplôme que tu as acheté et que tu as fabriqué. Or, c'est du mensonge. Tu as dans la poche un faux certificat que tu présentes comme quoi tu es un expert en quelque chose, je ne sais quoi. Or, c'est du mensonge. Comment veux-tu rentrer dans le royaume des cieux avec un faux diplôme d'État dans la poche? Comment veux-tu penser rentrer dans le royaume des cieux avec un document falsifié? Comment peux-tu rentrer dans le royaume des cieux avec un visa fabriqué? Comment peux-tu rentrer dans le royaume des cieux avec une nationalité prétendue qui est fausse? Tu es menteur au départ et la bénédiction de Dieu n'est pas sur toi. Tu es menteur au départ. Dieu ne s'inquiète pas si tu peux chanter de beaux cantiques, si tu peux faire de belles prières, si tu peux jouer un bel instrument. Dieu, il n'a pas besoin de cela parce que ta louange n'a pas de signification pour lui étant donné que le mensonge se trouve dans ta bouche, dans ta poche, dans ta maison, dans ta famille, dans tes relations entre ta femme et ton mari et ta femme, dans tes relations avec tes enfants. Tout est basé sur le mensonge, sur la duplicité, sur les expédients inacceptables. C'est pour cela que je te demande devant Dieu, repens-toi. Il ne peut y avoir une église exemple si le mensonge est dans l'église. Frères et sœurs, je vous en supplie, ne résistez pas à l'appel de Dieu. Je vous en supplie. Je me souviens bien les fois dans ma vie où j'ai menti. Ça reste marqué dans ma conscience. Je me souviens bien lorsque j'ai menti, sachant que je mentais. Et j'en ai pleuré devant Dieu. Et j'ai demandé pardon. Dieu l'a oublié, mais moi je m'en souviens encore. Je m'en souviens encore. Seigneur, purifie. Purifie nos bouches, purifie nos pensées, que nous soyons des hommes et des femmes vrais. Malheureusement, la nature humaine est ainsi faite que trop souvent, nous avons déguisé la vérité pour laisser croire au mensonge. C'est-à-dire, nous connaissions la vérité, mais nous ne l'avons pas dite et nous avons laissé croire au mensonge les autres parce que ça nous arrangeait. Nous n'avons pas corrigé. Eh bien, c'est comme si nous avions prononcé le mensonge. Que Dieu purifie nos consciences. Nous venons devant toi, Seigneur, tels que nous sommes. Tels que nous sommes, et nous te demandons pardon, Seigneur, pour nos mensonges. Pardon, Seigneur, pour ces paroles mauvaises que nous avons prononcées et qui n'étaient pas justes, l'impression fausse que nous avons laissée. Pardonne, Seigneur! Nous savions la vérité, mais nous l'avons cachée. Et nous avons laissé le mensonge courir, alors que nous pouvions changer les choses par la vérité. Et en ceci, nous sommes devenus menteurs, parce que nous n'avons pas défendu la vérité. Pardon, Seigneur. Efface nos péchés. Aide-nous à ne plus mentir. Seigneur, secoue-nous chaque fois que le mensonge nous assaille et que nous sommes tentés. Seigneur, pardonne, s'il te plaît. Donne-nous d'être transparents et vrais dans nos foyers, dans nos, à notre bureau, dans notre gérance, dans nos responsabilités. C'est difficile, Seigneur. C'est difficile car le monde entier est menteur et le milieu dans lequel nous sommes est menteur. Seigneur, nous savons comment faire, mais Seigneur, donne-nous la force de ne pas nous identifier avec les menteurs. Et si nous devons sortir de la place, eh bien que nous ayons le courage de sortir et tu nous aideras à trouver quelque chose d'autre où la vérité sera respectée. Seigneur, merci.
Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseignemoi.org. www.association-enseignemoi.org.